appel depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. À l'occasion de la rentrée académique le 15 octobre dernier, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Loakalo Sanjula a annoncé plusieurs réformes profondes du secteur de l'enseignement supérieur. Pour les ministres, l'objectif de ces réformes est de permettre aux étudiants d'acquérir une formation pouvant leur permettre de contribuer à l'émergence de la RDC. Aussi, pour promouvoir la relève du système éducatif universitaire, aujourd'hui à la baisse, a-t-il ajouté. Selon vous, quels sont les défis majeurs à relever dans ce secteur pour améliorer les niveaux de l'enseignement en RDC? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo, Nico Kalambay et Pierrot Elamegi concourent à la réalisation et à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Donatien Okoko, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les amis de Radio Okapi.
Vous êtes enseignant dans une des institutions supérieures de la place et aussi chercheur. D'entrée des jeux, comme on le sait en 90, il n'y avait que trois grands pôles universitaires réunis autour de l'université de Kisangani, de Lubumbashi et de Kinshasa, accompagnés d'une quarantaine d'institutions dans le pays. Aujourd'hui, on en compte plus des milliers. Donc, notre enseignement fait face à ce que nous appelons la massification de l'enseignement supérieur et universitaire qui était devenu d'ailleurs un problème urgent. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parmi les défis à relever, il faut d'abord commencer par repenser la qualité de l'enseignement qui passe par la révisitation du programme qu'on propose aux jeunes aujourd'hui?
Merci beaucoup, J.R. Merci pour un sujet aussi intéressant que le sujet de l'enseignement supérieur et universitaire. J'avais suivi Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, quand il proposait ces réformes-là. Mais ce que nous devons relever d'abord, c'est quoi? C'est que le mal ne doit pas être soigné au sommet. Il faut soigner le mal à la base. On peut beau faire des réformes au niveau universitaire, mais tant que la base, c'est-à-dire le niveau primaire et le niveau secondaire, on ne fait pas les mêmes réformes en synergie, il va toujours être difficile pour que nous ayons des étudiants de qualité aujourd'hui. Parce que la formation, c'est au niveau primaire et secondaire. Lorsqu'à ce niveau-là, un étudiant, un élève, n'a pas su conjuguer le verbe avoir au passé simple. Lorsqu'il arrive à l'université, il n'aura jamais ce cours-là de français ou de conjugaison pour apprendre les verbes. Et vous comprenez que lorsque la base n'a pas été solide, l'édifice ne va pas survivre. Et donc, si nous voulons faire des vraies réformes qui tiennent compte des étudiants pour avoir une très bonne formation, il faut commencer par là. Je me souviens que quand j'étudiais à l'école primaire, au bureau de notre directeur, il y avait tous les livres. Lorsqu'il y a, par exemple, le cours de zoologie, monsieur va au bureau, il va prendre le livre de zoologie et il va donner à tous les élèves là. Quand il va vous dire, ouvrez à la page 10, vous ouvrez à la page 10, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Nous avons le poisson. Et chaque étudiant voit le poisson, chaque élève voit le poisson. Et il vous dit les parties de la poisson, du poisson sont nageoire, la tête, ainsi de suite. Et chaque élève voit ça. Et quand nous rentrons à la maison, si maman prépare le poisson, tu dis, ah maman, ça c'est le poisson, voici la tête, voici les nageoires, tout ça. Vous commencez à appliquer ce que vous aviez dit à l'école primaire, déjà au niveau de l'école. Mais aujourd'hui, hier, à ce niveau de primaire-là, il n'y a même pas de matériaux didactiques pour former l'élève. Mmh. Et vous comprenez que cet élève-là, qui est mal formé dans le primaire, mal formé au niveau secondaire, quand il arrive à l'université, vous pouvez beau faire des projets, des réformes, ça aura difficile que nous ayons des produits de qualité. En outre, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, à l'université, dans quelles conditions on étudie aujourd'hui à l'université? L'étudiant n'a ni transport, ni bourse, ni logement, ni restaurant. Dans ces conditions-là, comment un étudiant peut aller à l'université, commencer le cours à 9h et terminer le cours, par exemple, à 17h ou 16h? L'étudiant ne tiendra pas. Dans les conditions où il peut s'en sortir, vous allez l'envoyer à la bibliothèque. Très peu de nos étudiants aujourd'hui fréquentent les bibliothèques parce que la base n'a pas été bien formée. Ils n'aiment pas la lecture. Alors que nous, quand on était au collège, à 7h du matin, avant que vous n'entriez dans les classes, il y a une période de 5 minutes où on vous dit lecture, lecture à haute voix. Et nos grands frères qui étaient en 6e faisaient le tour pour voir qui ne lit pas à haute voix. Et lorsque vous lisez mal, on vous porte correction et puis vous vous améliorez. Donc c'est à ce moment-là que les étudiants...
Oui, mais maître Douna, quand vous parlez, je comprends tout de même que vous parlez d'abord de la base. La base qui est l'école primaire, et aujourd'hui c'est un débat autour de la question de pouvoir donner la qualité de l'enseignement au niveau de la base, raison pour laquelle les constitutionnalistes ou encore les législateurs en 2005-2006 avaient déjà pensé à la gratuité de l'enseignement des bases pour non seulement permettre un taux élevé de la scolarisation, mais également de pouvoir donner la meilleure formation déjà au niveau de la base. Mais la question n'est pas là. Est-ce que la loi cadre de l'enseignement qui prend en compte l'enseignement des bases et l'enseignement supérieur dans son ensemble, qui a été révisité en 2011, si ma mémoire est très bonne, est-ce qu'on peut dire que cette loi nécessite encore une révisitation?
Je vous dis que ça nécessite la révisitation pour beaucoup d'égards. Parce que notre pays, il n'y a pas cohésion entre nos différentes institutions. Vous venez de dire à l'introduction que nous avons aujourd'hui plus de 20 universités en RDC. Plus de 20 universités. Mais nous avons combien de professeurs? Ce sont les mêmes professeurs qui vont dans toutes ces universités-là. Et vous allez voir qu'un cours, par exemple un cours de droit, quand il est trop résumé, l'étudiant ne comprendra pas bien, parce que le droit se comprend dans les détails. Mmh. Et lorsque vous avez un même professeur-là qui donne cours dans 10 universités, 15 universités, donc partout, il va être comme un professeur visiteur. Donc il va donner des cours de module, il donne des grandes lignes et puis il passe. À ce moment-là, comment vous pouvez accepter ça? Et vous avez vu que il y a quelques temps, on avait pris l'initiative, le ministre avait pris l'initiative, je crois Macha Koumamba, avait pris l'initiative d'accorder la possibilité aux différentes universités. Et il avait ciblé 5-4 universités privées pour organiser les DS, pour produire beaucoup de professeurs au regard de la croissance des universités dans notre pays. Matata est venu suspendre tout ça, que par question, il a laissé la possibilité d'organiser des DS et des thèses aux universités officielles. Or, nous n'avons que quelques universités officielles. Ce sont les mêmes professeurs-là qui donnent cours partout. Entre ce que dit la loi cadre sur la base de l'organisation, par exemple, de LM2, quelle est cette université qui peut appliquer ça aujourd'hui? Parce que les conditions ne permettent pas. Mais maintenant, avant de prendre ces mesures-là, pourquoi le gouvernement et toutes les institutions concernées ne peuvent-ils pas se mettre ensemble pour voir à chaque réforme toutes les facettes possibles? Vous créez beaucoup d'universités, mais vous ne donnez pas la possibilité aux chercheurs ou aux étudiants à devenir professeurs pour que toutes ces universités-là aient leurs propres professeurs. Là, ça pose déjà un problème. Beaucoup d'universités, moins de professeurs. Et lorsque ce professeur donne le cours par module, vous comprendrez que les étudiants ne seront pas bien formés parce que le professeur là-même n'acceptera pas que dans une promotion où il a 200 étudiants, que chaque étudiant lui pose une question. Parce que si on lui pose une question, il ne va pas enseigner très bien ce jour-là. Et lui tient compte qu'il doit terminer dans 4 ou 5 jours pour se rendre dans une autre université. Et donc, cette loi-là doit être révisitée pour tenir compte de la réalité sur terrain et voir dans quelle mesure faut-il améliorer ce qui doit l'être.
Voilà, si je comprends bien, professeur de la CIA Okoko, c'est vrai, je peux résumer en 3 points, donc des problèmes prioritaires, notamment le manque généralisé des services aux étudiants, entre autres l'accès à la bibliothèque, et aujourd'hui, comme on parle de campus numérique, et heureusement, le ministre l'a relevé aussi lors de son allocution, à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique. Il y a cette histoire de l'obsolescence des programmes face aux besoins, aux demandes et aux besoins des étudiants. Et finalement, cette réforme doit tenir compte aussi d'une politique publique adéquate pouvant permettre aux étudiants réellement d'accéder à une formation de qualité. Et là, vous prenez en compte également la question d'instaurer la relève académique qui, aujourd'hui, des professeurs sont beaucoup plus dans l'extramuros et des assistants qui tiennent même des cours parce que les professeurs attitrés sont obligés d'aller ailleurs. Voilà, on va voir comment les autres réagissent. Déjà, il y a des réactions sur notre page Facebook par rapport à cette question. La réforme au niveau de l'enseignement qui doit tenir compte de beaucoup d'éléments au lieu que ça reste juste un chapelet d'intention. 081 890 63 30 ou encore 081 890 49 69.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
En 90, il y avait que 3 grands pôles universitaires réunis autour de l'université de Kisangani, de Lubumbashi et de Kinshasa, accompagnés d'une quarantaine d'institutions dans les pays. Alors aujourd'hui, nous avons plus de milliers d'établissements d'enseignement supérieur et il faut compter une vingtaine ou trentaine, si mes calculs sont bons, des universités publiques. Mais pour faire face à cette massification de l'enseignement supérieur, d'aucuns proposent une politique publique adéquate. Ben alors, sinon, les résultats sera pas atteint par rapport à ce que venait de proposer comme réforme les ministres de l'enseignement. Alors Olivier, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, JR, bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Que faut-il faire pour faire face à cette massification de l'enseignement supérieur qui entame notamment la qualité de l'enseignement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis à relever. Que faut-il faire? Quels sont les problèmes prioritaires?
Oui, JR, pour moi d'abord, la première chose, c'est arrêter avec la création des nouvelles universités. Ça, c'est la première chose. Donc, arrêter de façon rigoureuse. Décider d'arrêter jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, l'invité venait de parler de la base. Il est vrai qu'aujourd'hui, JR, nos étudiants ne reflètent pas ce que nous souhaitons. Et ce n'est pas de leur faute. Pour la plupart, les creusets de formation, ils sont passés dans un moule qui n'a pas été bien fait. Et donc, je pense que il n'est pas nécessaire de faire des réformes. Si nous prenons la loi cadre de février 2014, il est dit quelque part qu'on devait créer un organe consultatif interministériel pour que on puisse analyser les problèmes et chercher les solutions d'ensemble. Mais cet organe n'a jamais vu le jour. Mmh. Et donc, ça signifie que chaque ministère dit « j'ai des problèmes ». Mais on ne cherche pas à trouver les liens entre ces problèmes et les problèmes des autres ministères. Ça, c'est...
Oui. Là, vous parlez de deux ministères concernés sur la question de l'éducation, notamment les ministères de l'éducation primaire et secondaire, et ainsi que les SU.
Justement. Et la loi cadre avait déjà réfléchi sur ça. On a parlé de l'organe consultatif interministériel. Voilà. Alors, il y a un autre problème, JR. Je vous dis que dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur, vous avez les responsables, en fait, deviennent comme des petits dieux et chacun applique sa loi. Et avec l'impunité que nous connaissons dans le pays, avec la complicité, je l'ai toujours dit, du ministère, les choses ne peuvent pas marcher. Quand bien même on pouvait, un temps soit peu, redresser les arbres qui étaient déjà mal partis, mais à l'université, dans les études supérieures, il y a un laisser-aller tel que on ne peut pas espérer une correction parce que tout le monde se retrouve dans le laisser-aller parce qu'il y a un problème d'argent. Alors, l'étudiant est content de passer, l'encadreur est content de percevoir l'argent pour faire passer l'étudiant, et donc on a l'impression qu'au finish, tout le monde est content. Les parents sont contents de voir les enfants évoluer rapidement sans se soucier du contenu de leur tête. Ça, c'est une deuxième difficulté. Et donc, je crois qu'il y a l'impunité qu'il faut aussi bannir. Alors, la troisième chose, c'est que il y a les conditions de travail. Et là, ça implique deux choses. Nous avons les infrastructures qui n'existent pratiquement pas. Je peux vous assurer que dans plusieurs provinces, vous avez des écoles d'enseignement supérieur qui fonctionnent dans des écoles primaires avec des bancs destinés aux enfants de 3 ans. Alors, vous imaginez ce que ça fait. Vous avez beaucoup d'institutions.
Mais oui, Olivier, il faut retenir que plusieurs rapports, disons, notent que tous les établissements ne sont pas égaux, ne peuvent pas être au même niveau sur le plan même infrastructure.
Oui, permettez-moi de sourire ou de rire, parce que ne pas être au même niveau ne signifie pas descendre trop bas. Ça, je veux bien. Mais ça signifie qu'il y a un minimum. Lorsqu'on dit université, lorsqu'on dit institut supérieur, il y a un minimum, JR, et malheureusement...
Mais pour vous, quel est ce minimum qu'il faut avoir, les minimums qu'on doit donner à ces... et exiger même à ces universités qui voient les jours aussi, comme des petits champignons?
Aussi bien dans le privé que dans le public, parce qu'il y a le privé et le public. Lorsqu'il y a une autorisation d'ouverture, je pense qu'il y a la commission de viabilité, la commission qui passe pour chercher, pour avoir la viabilité des instituts, doit voir si d'abord il y a des bâtiments, si dans les bâtiments il y a des bancs, et ceci et cela. Mais ça, tout ça, ça vient après. On donne l'autorisation et les bancs viennent après. Et donc, même 3 ans après, l'institut est locataire dans une maison d'habitation. Alors, vous imaginez ce que ça fait. Vous avez aujourd'hui le LMD, vous allez faire le LMD, il n'y a pas d'Internet.
Donc, mais vous allez demander à cette université aujourd'hui ou à cet institut supérieur aujourd'hui de commencer directement avec des conditions de viabilité. Quand je prends l'exemple, en tout cas, c'est pas une publicité de l'ICIPA qui a commencé à Lingwala sur Kitega, ceux de cette génération s'en souviennent, c'était 2-3 locaux ou 4, c'était même pas autant d'ampleur aujourd'hui.
Oui, justement, ça signifie que nous ne pouvons pas continuer à placer la charrue devant les bœufs, JR. Ça, c'est, il y a des gens qui s'en sont sortis, c'est vrai, mais il faut voir les conséquences sur même la première génération. Les conséquences sur la première génération, et cette première génération, aujourd'hui, je connais ces étudiants-là, ce n'est pas nous aussi. J'ai vu d'autres instituts qui ont fonctionné comme ça. Alors, c'est une mauvaise habitude que nous devons bannir, et malheureusement, elle prend de l'ampleur, et donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse le voir. Donc, mais ce n'est pas la réforme comme telle que la propose
le ministre Thomas Louaka.
Il faut voir la loi cadre et appliquer. Il y a de bonnes choses dans cette loi cadre. Il faut suffisamment d'appliquer
cette loi. Merci beaucoup.
Être rigoureux. lutter contre l'impunité, parce que ça c'est une catastrophe. JR, je pense que si on ne fait pas attention, le pays va disparaître.
Merci beaucoup Olivier. Vous évoquez la question de l'organe consultatif, parce que ça c'est légal, c'est la loi cadre qui en parle, mais cette disposition n'est pas appliquée. Et appliquée ou à amorcer quelques réformes sans tenir compte de cette disposition, c'est déjà parti pour un échec par rapport à ce projet. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé de Kikwit. Alors, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur JR. En tout cas, merci pour la pertinence de ce sujet. Et je salue aussi le courage qu'a toujours eu son Excellence, Monsieur le Ministre, Thomas Loaka, parce que je me rappelle quand il avait les affaires dans les infrastructures, il avait toujours une marque de distinction, ça je le sais. Et je pense que je suis sûr qu'avec tout ce qu'il propose, en tout cas les réformes sont le bienvenu et elles sont plus qu'impérieuses, parce que je vous assure que j'ai eu la chance de faire tout mon cursus académique à l'ISC et tout de même à l'ISC, j'ai eu à voir bien de choses. Oui, alors il se passe bien des choses dans ces institutions supérieures et c'est là que ça semble. Vous savez, au fur et à mesure qu'on a beaucoup d'institutions supérieures, alors il se passe qu'il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas vraiment se coordonner. Vous n'avez qu'à voir au jour d'aujourd'hui, on est dans les institutions supérieures, les programmes ne sont pas coordonnés comme il se doit. Vous avez les institutions supérieures où le cours qui doit être donné, par exemple, par le professeur lui-même, mais il est ce professeur à un assistant qui est, je ne sais pas son neveu, mais qui n'arrive pas à donner correctement cet enseignement-là. Alors, je pense que ça, c'est un désordre qui est organisé au niveau des institutions supérieures. Voilà ce que je propose aussi dans la réforme de son Excellence. Il faut au jour d'aujourd'hui faire comme on le fait dans les écoles secondaires et voire même primaires. Il faut au moins placer les inspecteurs au niveau supérieur et universitaire pour contrôler ces professeurs qui se croient déjà être aux anges et n'avoir pas été suivis derrière, parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est ce qui déforme la qualité de l'enseignement au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Vous n'avez qu'à voir qu'aujourd'hui, il y a des plagiats au niveau des travaux de fin de cycle et voire même des mémoires politiques, c'est-à-dire des plagiats passés sous toutes les formes et il n'y a pas un mécanisme qui est mis en place pour le suivi de tous ces plagiats. Et qui vont nous représenter dans les temps à venir? On a des cadres qu'on a sous les marchés qui ne sont pas à la hauteur de représenter correctement notre pays. Alors, je pense que j'en interpelle également son Excellence. Il doit taper du poing sur la table qu'il y ait un suivi adéquat dans toutes les institutions supérieures et universités. Tous les assistants qui n'ont pas les conditions, qui n'ont plus
Jérémy, quand vous soulevez cette question de l'assistanat, il y a d'autres auditeurs qui ont fait leurs commentaires en disant que effectivement notre pays n'est pas en capacité de former suffisamment de professeurs et peine à valoriser ces métiers. Parce que quand on regarde le nombre de professeurs ordinaires et même des professeurs à thèse que nous avons dans ces pays, la plupart, ils ont soutenu leur thèse à l'extérieur ou encore sous d'autres cieux, mais que dans notre pays. Et c'est ce qui veut dire qu'il y a quand même un déficit de formation des professeurs ici au pays. Ou seulement, sauf quelques cas isolés.
Oui, oui, mais Monsieur JR, on ne disconvient pas. Même les chefs de travaux qui sont là affectés, ils ne remplissent pas, c'est difficile, ils ne remplissent pas correctement. C'est rare dans les cas où on voit ces chefs de travaux qui assument correctement leur... Je pense que certains, il y a de l'Internet qui est en train d'aider ceux-là qui sont paresseux. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit promouvoir des recherches au niveau des institutions supérieures. Et deuxièmement, vous regardez, je vous donne l'exemple d'une université ici à Lubumbashi, l'UNH, l'Université de Nouvelles Horizons. Vous regardez les étudiants qui sont là, sont bien formés. Et ils sont vraiment aux aguets.
Merci beaucoup, Jérémy. On va prendre Simon qui est à Kadanga. Simon, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bonjour, JR Lungembo. C'est Simon Kalukanda depuis la ville de Kananga.
Alors, que faut-il faire pour faire face à cette massification de l'enseignement supérieur qui, au fait, dérange également la qualité de l'enseignement dans son ensemble au niveau du pays?
D'accord, merci JR de m'avoir associé une fois de plus à ce débat. En tout cas, je Au départ, d'abord, je voudrais remercier son excellence, monsieur le ministre de l'ESI, d'avoir pensé à cette innovation. Bon, moi, je vais un peu résumer ça en deux points. C'est vrai que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Moi qui vous parle ici, je suis ressortissant. Je viens de terminer fraîchement à l'université de Canaan. Mais je peux vous parler un peu de quelques difficultés que nous avons réussies là-bas. 90% des professeurs à l'université de Kananga viennent de Kinshasa et de Lubumbashi. Mais cette année qui vient de s'écouler, nous avons réussi une difficulté, c'est-à-dire tous les professeurs, voire même certains chefs de travaux n'ont pas répondu. Particulièrement dans ma faculté des sciences informatiques, il n'y a que 2 professeurs et 3 chefs de travaux qui ont répondu. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas un consensus sur le financement, plutôt sur les frais. C'est-à-dire, l'université, les frais qu'on devrait les proposer étaient insuffisants. Mais cela était dû à quoi? Au taux que le ministère avait fixé de 93. Mmh. Et qui a fait que nombreux de professeurs ne puissent
pas... On refusait carrément de venir enseigner, oui.
Ils ont refusé carrément. Il n'y a que 2 professeurs dans ma faculté et 3 chefs de travaux qui avaient répondu. Et c'est nous, maintenant, étudiants, qui étaient victimes de ça. Voyez un peu ce premier point-là. Il y a aussi un deuxième point, c'est le point des infrastructures JR. Dans ma faculté, dans mon université de Kananga, je félicite d'abord le comité de gestion, le professeur Sabo Chabuko, que je salue en passage, parce qu'ils ont un peu fourni beaucoup d'efforts pour que cette université soit dotée de son site propre à Katambay. Mais il y a un problème aussi, comme c'est une université officielle de l'État, l'État devrait aussi en quelque sorte prendre en charge la construction, par exemple, des auditoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme difficulté. Il y en a qui étudient sur la ville à l'RPNC, il y en a qui sont en Tambwe, il y en a qui sont à Katambay. Tout ça, ce sont les difficultés parce que les étudiants qui bénéficient de ces cours-là, ils ne seront pas vraiment se partager. C'est pourquoi moi, je voudrais vraiment demander au ministre, s'il est en train de nous écouter, qu'il tienne compte vraiment de tout ça, surtout dans les universités publiques, comme l'université de Kananga. On ne peut pas négliger des histoires comme ça parce que c'est nous étudiants qui sommes victimes et les cours ne sont pas disponibles. Moi qui vous parle, il y a d'autres cours qu'on a étudiés même avec les assistants parce que les professeurs n'avaient pas répondu. Et on est censé maintenant encore des recherches par-ci par-là pour combler les vides.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Alors, on revient à vous, professeur de l'ancien Okoko. Maître, vous êtes enseignant à une des institutions supérieures de la RDC. Vous avez suivi cette série des auditeurs. Je retiens une chose. Olivier, lorsqu'il parle de la loi cadre qui ne doit être qu'appliquée, et ça donnerait les résultats si on veut vraiment mener des réformes. Pour lui, tout a été déjà dit. En tout cas, la messe a été dite dans cette loi. Il suffit seulement de l'appliquer et le résultat sera celui escompté. Est-ce que vous partagez cet avis, maître de l'ancien Okoko?
Oui, je partage tout à fait l'avis de monsieur Olivier parce que ça ne sert à rien d'entrevoir des réformes pour des réformes. Il faut voir la loi cadre. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Et pourquoi ce n'est pas fait? C'est en connaissance de ces failles-là, le pourquoi, les causes qui ont fait que cette loi ne soit pas appliquée, qu'on peut entrevoir des réformes. Mais à défaut de consulter cette loi-là et de prévoir des réformes pour le besoin de refaire, je crois...
Oui, si j'avais bien suivi le ministre, il a parlé de ce souci d'étendre vers l'émergence. Le fait que ce soit d'une manière globale qu'on veut amener le Congo à l'émergence, la clé... comme 11e pilier de 15 piliers du Premier ministre, c'est l'éducation qui est la clé même. L'éducation, que ce soit au niveau de la base ou au niveau supérieur.
Justement, Gérard, pour aller vers l'émergence, cette loi cadre-là a tout prévu pour que le Congo produise des étudiants, des produits de qualité. C'est pourquoi, pour aller vers l'émergence, il faut revisiter cette loi-là pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. C'est à ce moment-là que pour corriger ou pour parfaire cette loi-là, ça va nous amener automatiquement vers l'émergence. Mais pas chercher à aller vers l'émergence à ne pas faire cas d'une loi qui a déjà existé. Il faut d'abord voir ce qui a existé et pourquoi tout ce qui a été prévu n'a pas été respecté.
Oui, allez-y.
Je voudrais aussi dire, parce que j'ai entendu M. Olivier dire qu'il n'y a pas à espérer, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Non, il faut toujours espérer. Dans la situation où nous nous trouvons, nous ne sommes pas dans une situation de fait accompli. Non, il y a toujours lieu d'espérer parce qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Il y a toujours lieu d'espérer. Il suffit que tout le monde ait le même entendement, ait le même souci de voir notre système éducatif aller de l'avant. Je crois que là, on va...
Oui, mais Olivier a insisté beaucoup plus sur la commission d'ailleurs de viabilité instituée par Machako Omamba à l'époque, et, comme le dit d'ailleurs la loi, mais qui n'a jamais existé, ou carrément le travail qui est fait, si la commission est là, le travail n'est pas apprécié par les communs des mortels.
Mais c'est ça ce que j'ai dit hier. C'est pourquoi je vous dis que cette loi-là avait tout prévu. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ce qui n'a pas été fait, c'est cette commission-là. Pourquoi on ne l'a pas appliquée? Pourquoi on n'a pas mis en place cette commission-là? Pourquoi elle n'a pas donné des suggestions? Pourquoi elle n'a pas proposé? Pourquoi? C'est à partir de cette loi-là qui existe. Donc la loi-là avait tout prévu. Donc je ne vois pas le ministre commencer à voir l'émergence avant de commencer par voir le contenu de la loi cadre.
Alors quand le ministre demande, il dit par exemple parmi les réformes, il faut convoquer les états généraux. Mais si déjà la loi cadre a tout dit, quelle est la nécessité de ces états généraux?
Mais c'est ça justement que nous disons, ça ne sert à rien de faire des réformes, ça ne sert à rien de convoquer des histoires alors que vous avez entre vos mains la solution. J.R., je vais vous dire une chose. Les réformes dans notre pays ne sont souvent généralement des réformes mal réfléchies et mal appliquées. Aujourd'hui, là, tout le monde reconnaît que le niveau de notre système éducatif est bas. Mais quand vous regardez les conditions de délibération, avant la réforme de 2002 et après 2002, vous allez vous rendre compte que nous qui sommes, disons, les gouvernants sont complices ou responsables de la situation que connaît notre pays. Pourquoi? Nous, quand nous avons étudié avant la réforme de 2002, pour qu'un étudiant passe, il doit satisfaire à tous les cours. Dans le cas contraire, il va être soit à journée totale, soit à journée partielle. Quand vous êtes à journée totale, donc vous revenez même dans les cours où vous avez eu une cote satisfactoire, à moins que le professeur vous dispense. Quand vous êtes à journée partielle, donc vous venez dans tous les cours où vous avez eu moins de 10, et les cours où vous avez eu 10 ou 11, qu'on appelait les entraînés. Et donc vous comprenez que les conditions de délibération était rigoureux et poussait les étudiants à étudier. Mais aujourd'hui, quand on vous dit on est à journée, c'est-à-dire que vous ne revenez que dans les cours où vous avez eu moins de 10. D'abord, la cote satisfactoire n'est plus 12, la cote satisfactoire devient 10. Et vous comprenez un peu ça. Donc c'est une facilité qu'on accorde aux étudiants qui ne sont plus travailleurs à baisser encore les bras. Donc vous voyez une réforme qui a été à la base de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais si à cette époque-là, ceux qui ont fait la réforme ont dit non, compte tenu de ce que nous voyons ici, mais comme côté satisfactoire, c'est 13 au lieu de 12. Aujourd'hui, tous les étudiants feraient un effort pour avoir au moins 14 sur 20. Mais lorsqu'on vous dit qu'il faut avoir 10, vous voyez un peu ça. Et quand même, vous aurez 50% si vous avez 10 dans tous les cours et vous avez 2 cours, vous avez 8 et 9. Vous revenez dans ces 2 cours seulement. Mais à ce moment-là, j'ai comment on peut élever le niveau des étudiants dès lors que les conditions de délibération sont trop légères. Et donc, les réformes, c'est bien, mais il faut qu'on ne fasse pas des réformes pour des réformes. Il faut d'abord voir ce que nous avions déjà fait, pourquoi ça n'a pas produit de fruits. Il faut connaître des causes pour chercher à mieux faire agir.
Alors, si
ça passe pour des causes.
Alors, maître Delassien, je découvre là, sur notre page Facebook, Kalombo Joss, qui dit il y a pas d'autre réforme à faire à l'université que d'améliorer les conditions des infrastructures, les paiements des professeurs, assistants et autres, parce que ce sont là les facteurs qui facilitent la corruption et les manques de bancs, les manques de qualité au niveau de l'enseignement, capable de défendre même les étudiants, pour amener les étudiants à défendre leur savoir. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Ça, je l'avais déjà dit au départ, Gilles. Lorsque nous parlons de réformes, les réformes, c'est beaucoup de choses. qu'il faut tenir compte. Je vous avais dit au départ, on peut créer le niveau qui est trop bas, mais dans quelles conditions ces étudiants sont en train d'étudier? Ils n'ont ni bibliothèque, ni laboratoire pour ceux qui font des sciences techniques. Ils n'ont pas de restaurant, ils n'ont pas les transports, ils n'ont pas la bourse. Tout, c'est l'étudiant qui se démène seul avec ce moyen de bord. De l'autre côté, les enseignants, en les comparant avec ceux qui étaient avant eux, les enseignants d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation où on est comparable. Vous voyez qu'aujourd'hui, pourquoi tout le monde va dans la politique, c'est parce qu'on trouve que c'est la politique qui paye, l'enseignement ne paye pas. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Mettre les enseignants dans de très bonnes conditions et aussi mettre les étudiants dans de très bonnes conditions. Les conditions, ce n'est pas seulement les enseignants. Il faut aussi tenir compte des étudiants. Parce que s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ils ne vont pas bien étudier. Quelqu'un peut avoir la bonne volonté d'étudier. Mais s'il se trouve dans des conditions telles qu'il a passé toute la journée, il n'a pas mangé. En tout cas, vous allez lui demander, quelle que soit sa bonne volonté, il ne va pas étudier. Parce qu'on a toujours dit que le ventre affamé n'a point d'oreille.
Voilà, on va écouter. On va écouter Maître Donat, si vous le permettez, les autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, et nous rappelons d'ailleurs les moyens de contact pour participer à cette émission, les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Oh Mario, tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Bathier, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent, surtout au Congo profond. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, c'est bon comme le ministre venait de dire, mais moi je pense que on a toujours dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Moi je pense que depuis qu'on avait commencé l'initiative ici des réformes, jusque là, on n'évolue pas. Il y a le feu ministre de l'enseignement, le président a parlé de feu Machako, que son âme me repose à plein. Il avait quand même initié quand même des initiatives. Mais jusque là, tout ce qu'il a proposé, ça n'a jamais été réalisé. Et monsieur le journaliste, je vous dis que si vous passez par exemple, même à l'intérieur, même ici à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, il faut voir les conditions à laquelle les étudiants vivent dans les campus. Là, je parle, par exemple, au niveau du campus de l'université de Kisangani, mais même ici à Kinshasa, vous pouvez aussi, vous êtes journaliste, passer dans des campus là où on loge les étudiants. Vous allez voir quelles sont les conditions à laquelle les étudiants vivent. Ça, c'est vraiment difficile. Ensuite, les professeurs, je pense que il y a d'autres professeurs qui sont devenus des commandeurs de petites sommes. Ce n'est pas bien. Moi, je pense que...
Mais quand vous parlez, Mathieu, quand vous parlez de Kisangani, par exemple, cette grande institution créée par l'église protestante, avait fait aussi la fierté en son temps, et surtout avec la question du logement, où on voyait, il y avait quand même des villages colis à l'époque, et d'autres villages construits pour loger des étudiants au sein du campus de Kisangani.
Oui, monsieur le journaliste, il faut passer, si vous avez les journalistes, malheureusement, je ne sais pas si Okapi fonctionne encore à Kisangani. Je pense que les villages Ilungu, Kol, ils sont en train de réhabiliter, je pense ils sont en pleine réhabilitation, si je ne me trompe pas. Mais il faut voir les conditions. Mais
parce que déjà vers les années 88-89, ces bâtiments étaient vraiment d'un bon état. Ben, aujourd'hui, moi, je ne sais pas dans quel état se trouvent les villages Kol ou Ilungu.
Mais c'est en peine qu'ils sont en pleine réhabilitation. Moi, je confirme que vous pouvez envoyer les gens, ils sont en pleine réhabilitation. Mais il faut voir les conditions à laquelle les gens, les étudiants vivent. C'est déplorable, monsieur le journaliste. Et aussi, je pense qu'il n'y a ni transport, ni cantine. Donc, il n'y a rien. Alors, on ne sait même pas comment les étudiants vivent. C'est déplorable. Même avoir l'eau, le courant, c'est tout un problème. Mais c'est déplorable. Moi, je pense que le ministre, il fallait d'abord lui demander qu'il puisse d'abord remettre à ce que les conditions de vie des étudiants et des professeurs soient quand même humaines. C'est-à-dire que les gens doivent vivre...
Alors, si déjà des vieilles institutions, notamment l'université de Kisangani, de Lubumbashi et de Kinshasa, se trouvent dans ces états, comme vous venez de l'évoquer, piteux et déplorable. Alors, quel sera l'état dans lequel se trouveraient les universités nouvellement créées? Vous avez suivi les cas de l'université de Kananga. Est-ce un problème d'accompagnement? J'y reviens encore à vous, maître de la Sierre, au coco. C'est que l'accompagnement n'a pas été bien organisé pour finalement faire asseoir les nouvelles universités créées par l'état lui-même.
Bon, hier, là aussi, c'est un autre problème, hein, un autre problème très sérieux. Dans pratiquement toutes les nouvelles universités publiques qui pullulent dans toutes les provinces, vraiment, est-ce que ces institutions-là peuvent être appelées universités? Lorsque une institution universitaire qui fonctionne dans les locaux d'une école primaire, est-ce que cette institution mérite d'être appelée université? Je ne crois pas que cela puisse être appelé université, dans la mesure où, lorsqu'on parle d'une université, il y a quand même des minimums. L'université doit nécessairement avoir un campus digne de ce nom. Vous ne pouvez pas créer des universités avec des bâtiments, comme elle a relevé un premier auditeur, elle a pour dire que les étudiants qui se mettent dans les bancs, qui sont fabriqués pour les enfants. Ça, c'est inconcevable. C'est pourquoi je soutiens même le point de vue du premier auditeur, là, qui avait dit qu'on suspende ces histoires-là de création des universités aujourd'hui. Parce que tant qu'on continuera à créer des universités au jour le jour, hier, vous allez trouver que ces universités-là ou ces institutions-là ne répondront pas aux conditions d'être une université, sauf à être autre chose, une école par exemple, et non une université. Et donc, moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, au lieu que le ministre puisse proposer des états généraux ou des réformes, qu'il fasse d'abord l'état des lieux de son secteur d'activité. Mmh. Est-ce que les institutions que nous appelons aujourd'hui des universités méritent de l'être? Non. Mmh. Beaucoup ne sont universités que des noms. Mmh. Donc, infrastructure zéro, corps administratif inexistant, corps, parfois même corps scientifique inexistant. On n'a que quelques professeurs qui viennent de partir par là, et ça, on appelle ça université. Non, je crois que à ce niveau-là, il y a beaucoup à boire et à manger. Nous ne savons pas comment aujourd'hui, à peine qu'on a installé les 26 provinces, toutes les provinces ont leurs universités. Alors que les tribunaux qui doivent se trouver dans toutes ces provinces-là, il y a des endroits où les tribunaux ne sont pas encore installés pour manque d'infrastructures. Donc vous voyez qu'entre les institutions, il n'y a pas cohésion. Au lieu qu'il y ait cohésion entre les différentes institutions pour voir comment les choses doivent se passer très normalement, les histoires se font comme si on était chacun chez soi. Donc vraiment, c'est
déplorable. Donc, voilà. Alors on va écouter Anderson qui est à Lubumbashi. Anderson, bonjour.
Bonjour, messieurs. Bonjour à l'invité. Bonjour également à tous.
Oui, quelle est votre contribution, Anderson?
Merci, M. Pierre. D'abord, je commencerai par dire que c'est vraiment un sujet très pertinent qui est dans la discussion. Car vraiment, il y a à manger, à boire, à diversifier. Je signalerai au départ que j'ai déjà cette année, à l'université.
Oui, Anderson, on vous écoute difficilement parce que là, vous êtes tout autour de vous, il y a des vents qui soufflent, alors on ne saura pas à continuer avec vous. Peut-être si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, ça nous donnerait peut-être un très bon, une très bonne communication. Alors Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution Amos?
Tout à fait JR, nous pensons que par rapport à ce que le ministre de l'ICI a dit, c'est vrai, nous sommes d'accord avec lui, mais il faut voir parce que ça fait longtemps on décrit la manière dont les universités ou les institutions supérieures fonctionnent actuellement en RDC, ne remplissant pas même les normes requises. Comment comprendre ce que le ministre a dit au moment où ce sont eux qui octroient les arrêtés à des institutions qui ne répondent à aucune norme de fonctionnement? Je l'ai toujours dit et je le dirai pour toujours. Vous allez raconter aujourd'hui, non seulement à Bukavu, mais à travers toute la République, que une seule maison ou un seul bâtiment est à la fois une église, est à la fois une école primaire, secondaire, il y a une boutique dedans, mais aussi une université. On se demande finalement comment les étudiants peuvent parvenir à étudier dans de bonnes conditions au moment où ils n'ont pas même des auditoires, pas des bibliothèques, des gens qui se font passer comme des professeurs au moment où ils n'ont pas cette qualité, et du fait qu'ils ne sont qu'à la quête de l'argent, tout le monde crée ce qu'il veut par cette université. Vous arrivez à Bukavu, vous serez surpris hier. Dans des quartiers reculés, dans des avenues reculées, mais des universités qui fonctionnent. Des universités qui fonctionnent les après-midi, de 15h à 18h, de 16h à 18h30. Comment on peut convaincre les gens que ces gens ont étudié dans des conditions normales et ils ont reçu la formation requise? Et demain, vous allez rencontrer, on a des milliers de licenciés, des milliers de gradués, qu'on appelle des chômeurs, mais sur le plan scientifique, sur le plan connaissance, ces gens n'ont rien dans leur tête. Et demain, vous les rencontrez, ils sont engagés comme des ministres, comme des agents dans des institutions, ou bien même dans des ONG, et ils ne donnent rien en termes de travail de qualité. C'est ça le problème. Moi, je pense que le ministre devait d'abord voir comment ils peuvent mettre de l'ordre au niveau des universités, ne pas permettre que toutes les universités fonctionnent. Mais chaque année, on dit que les institutions ne vont pas fonctionner. Mais demain, les DG de ces institutions quittent la ville, ils voient tout ça, ils donnent un peu de l'argent, demain ils rentrent, ils fonctionnent. Ainsi de suite, et chaque année, ils disent il y a 50 institutions qui ne vont pas fonctionner. Parce qu'elle ne remplissait pas les conditions, mais elle continue à fonctionner, on se demande si c'est ça qu'elle est en train de donner les listes des universités qui n'ont pas fonctionné, mais aucune de ces universités n'a jamais fermé la porte. Voilà pourquoi nous disons, il devrait d'abord voir comment mettre de l'ordre dans ce secteur avant ces discours, parce que pour moi, c'est juste un discours de trop. C'est juste vouloir amuser la galerie, mais sur le terrain, la réalité est tout autre.
C'est autre. Merci beaucoup, Amos. Alors, Pascal, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur JR. Bon, je profite de l'occasion d'abord pour saluer tous les Congolais de partout. Monsieur JR, ce pays aura combien de réformes au finish? Et des réformes qui n'aboutissent pas à de très bons résultats. À mon humble avis, le ministre devrait commencer par se poser un certain nombre de questions, notamment qu'est-ce que l'État a fait des cadres universitaires qui sont déjà sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce que l'État a mis en jeu pour avoir une bonne qualité de ces étudiants-là? Et le pays a besoin de qui au finish pour son décollement? Le pays a besoin de qui? Parce que l'université dans nos familles, c'est devenu comme un prestige. Donc les parents veulent à tout prix amener leurs enfants à l'université sans réfléchir en profondeur qu'est-ce que ces enfants deviendront demain. Voilà, c'est pourquoi même les parents sont prêts à donner de l'argent à leurs propres enfants pour aller corrompre, ce qui n'est pas bon. Et si je dois me tourner du côté des encadreurs, comment est-ce qu'on recrute ces enseignants-là? Puisque distinguer à l'université ne suffit pas pour évoluer avec le cursus d'enseignant. À mon humble avis, il y a la moralité, comme venait de le dire mon prédécesseur Olivier. La moralité d'un enseignant vaut plus que même son intelligence. Parce que de nos jours, après la session, tous les étudiants se lancent dans la démarche de ce qu'ils appellent le suivi pour donner de l'argent aux enseignants et bénéficier des cotes. Mais demain, nous nous retrouvons avec quel genre de cadre sur le marché. Et des étudiants qui finissent avec des diplômes, des licences, mais qu'ils ne savent pas s'en servir au niveau du marché. Donc je pense que le ministre devrait commencer par se poser un certain nombre
des questions
sur ce qu'il y a déjà, oui, sur ce qu'il y a déjà.
Mais c'est pourquoi il propose de poser ces questions autour des états généraux qu'il pourrait convoquer dans les prochains jours.
Oui, effectivement, si il y va dans ce sens-là, je pense que c'est une très bonne idée, parce que le Congo n'a pas besoin d'autant des universitaires. Donc tout le monde ne peut pas avoir un diplôme d'université.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Pascal d'avoir appelé Edekikwit. On va terminer avec vous, Maître Donatien Okoko. Vous êtes en ligne. Là, je suis en train de lire la phrase, le propos du professeur Ngoma, recteur de l'université de Kinshasa, lors de la rentrée académique, qui dit qu'il est souhaitable que tous les établissements riment, que ce soit à privé ou public, riment aux standards internationaux, qui constitue un encouragement à produire de nouveaux progrès en s'engageant tous avec passion pour l'éducation des jeunes afin de leur fournir une formation de haute qualité susceptible de lui doter des valeurs intellectuelles, éthiques et spirituelles pour le développement de la RDC. Maître Donatien, comment commentez-vous ces propos du professeur Ngoma, et on termine par là.
Merci beaucoup, Gilles. Moi, je crois que les propos du professeur Ngoma il n'y a pas de vérité vraie, mais il y a toujours des vérités relatives. Donc je partage le propos du professeur Ngoma. C'est pourquoi nous disons que ce que dit le professeur Ngoma là, si vous y allez dans la loi cadre, vous allez trouver que c'est ça que le législateur a souhaité. Et donc ce que dit le professeur Ngoma, c'est ce que dit même le ministre en d'autres mots, mais c'est ce qui est prévu dans la loi cadre. Moi, ce que je pourrais demander au ministre, c'est quoi? C'est de lui dire ceci, que le Congo, que la pratique de tout celui qui vient commence à zéro, cette politique-là ne nous avance pas. Il faut toujours voir, comme on a toujours dit, les hommes passent, les institutions restent. Vous avez, quelqu'un d'autre a été avant vous, vous venez d'arriver, il faut voir, il a été où, il a commencé, où il s'est arrivé, où et vous allez...
Le principe de continuité.
Pour continuer. Mais pas à chaque moment qu'il y a changement, on recommence à zéro. Chaque fois qu'il y a changement, on recommence à zéro. Je vais lui proposer qu'il prenne tout son courage et qu'il revienne, par exemple, sur la décision de fermeture des troisième cycle à certaines universités privées que le ministre Machako avait autorisé à organiser le troisième cycle pour permettre le Congo à avoir beaucoup plus de docteurs que d'avoir des universités sans professeurs. Merci beaucoup, Gilles, pour la confiance que vous m'avez fait de partager cette émission avec vos nombreux auditeurs de Radio Capital.
Voilà, merci beaucoup Maître Donatien, c'est nous qui vous remercions parce que vous avez été disponible pour partager avec nous ces moments, faute d'un invité du côté du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce n'est qu'une partie remise, en tout cas on aurait bien souhaité. Le ministre est retenu dans les réunions, il devait nous trouver une personne ressource pour au fait constituer les panels et échanger ensemble avec nous. Merci beaucoup Maître Donatien, mais nous rappelons que vous êtes également chargé de cours dans une institution d'enseignement supérieur universitaire ici au pays. Une fois,
chef de travaux.
Chef de travaux, voilà. Merci beaucoup, chef de travaux à l'ULK. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.